VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est Eric Manila Kidza, en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Ravi d'être avec vous et bienvenue dans cette édition de 19h30 temps universel. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui du lundi 11 septembre 2017. Voici d'abord les principaux titres. Au Togo, l'opposition appelle à de nouvelles manifestations dès demain. L'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade renonce à siéger à l'Assemblée nationale. 16e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis se rappellent de l'attaque d'Al-Qaïda sur les tours du World Trade Center à New York et sur le Pentagone. L'ouragan Irma, des millions d'Américains privés d'électricité en Floride. Retrouvez Nicolas Pinault pour les sports et Didi Dico pour la Muniteco juste après le journal. Le président américain Donald Trump a rendu hommage aux près de 3000 victimes des attentats du 11 septembre. Il a assuré que l'Amérique n'oublierait pas et ne se laisserait jamais intimider. Au même moment, une minute de silence était également observée à Ground Zero à New York. Des milliers de personnes se sont réunies devant les deux immenses bassins noirs construits en lieu et place des tours jumelles en présence du maire de New York, Bill de Blasio, et de son prédécesseur Michael Bloomberg. Le vice-président Mike Pence s'est rendu en Pennsylvanie pour la même commémoration. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition. La société civile congolaise a proposé à Kinshasa son propre calendrier électoral. Elle invite les autorités à présenter leur calendrier officiel afin de sortir de la RDC de la crise née du maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Pour elle, l'élection présidentielle aurait lieu le 31 décembre avec convocation du corps électoral au 1er octobre 2017 et une campagne électorale du 1er au 30 décembre. Abraham Djamba, à la tête de cette initiative, appelle la commission électorale à lever les incertitudes ambiantes sur la tenue des élections devant mettre fin à la crise de légitimité institutionnelle que connaît le pays depuis fin 2016. Le nord de la RCA en proie à de nouvelles violences. Des groupes armés se sont affrontés ces derniers jours à Batangafo, dans la préfecture de Louham. Plus d'une dizaine de personnes ont été tuées. De nombreuses autres blessées et des bases des ONG pillées à Bangui, les précisions de Freeman Sipila.
Selon des sources locales contactées par VOA Afrique, tout serait parti de l'assassinat vendredi dernier d'un employé de l'ONG Solidarité par des ex-Séléka. Situation aussitôt récupérée par des anti-Balaka, déclenchant ainsi les hostilités. L'interposition des casques bleus de la MINUSCA n'a pas pu calmer la situation, mais a plutôt boosté la tension. Conséquence, plus de 10 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tuées, de nombreux autres blessés, et la ville s'est vidée d'une partie de ses habitants. L'hôpital appuyé par Médecins sans frontières a été saccagé. Les bases des ONG, Conseil danois pour les réfugiés et Solidarité, systématiquement pillées. À Bangui, le chef de la MINUSCA s'insurge contre l'attaque sur des casques bleus et des humanitaires. Parfait, Onanga Anyanga.
C'est contre les principes humanitaires. On ne peut pas, même dans la guerre, on ne peut pas détruire, on ne peut pas pratiquer la politique de la terre brûlée. On ne peut pas, parce qu'il faut qu'il y ait toujours des hommes et des femmes qui restent, même dans la guerre. On détruise l'outil humanitaire qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, la Centrafrique est devenue le pays le plus dangereux pour les travailleurs humanitaires.
Pour le moment, les ONG internationales quittent Batangafo, ville devenue de plus en plus dangereuse pour les humanitaires. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La coalition de 14 partis d'opposition au Togo a appelé aujourd'hui ses militants et la population à de nouvelles protestations dès demain pour demander le départ du président Fornia Simbé et des réformes constitutionnelles. C'est le même collectif qui avait organisé les manifestations massives de la semaine dernière. Le point avec Kai Lawson à Lomé.
Les 14 formations politiques regroupées au sein des forces démocratiques étaient présentes à cette conférence de presse. Un signe pour montrer l'union de l'opposition que ces partis ont encore martelé à l'occasion. L'opposition togolaise veut toujours maintenir la pression. Elle vient d'annoncer à Lomé une série de manifestations qui débutent ce mardi. Georges Kouessin, président du parti Santé du Peuple.
Nous avons demandé aux populations de se présenter demain mardi, le 12, à 8h, à l'Assemblée nationale, pour réclamer le retour à la condition originelle de 1992.
Un meeting est prévu le vendredi 15 septembre et les 19 et 20 prochains, des marches avec les mêmes revendications, le retour à la constitution originelle de 1992 et le départ de Fornia Singbi. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Et le président togolais, confronté à cette importante contestation populaire, a décidé de reporter sine die le sommet Afrique-Israël censé se tenir à Lomé fin octobre. Au Sénégal, l'ex-président de l'AIWAD ne siégera pas à l'Assemblée nationale. Il a démissionné de son poste de député. Le 30 juillet, Wad avait dirigé une des coalitions de l'opposition législative. N'est-ce pas, Abdourahmane Dia?
Je m'étais présenté à la compétition uniquement pour soutenir mon parti, le Parti démocratique sénégalais, et notre coalition, explique Abdoulaye Wade dans sa lettre de démission. Il avait pourtant activement pris part à une campagne émaillée d'incidents et multiplié les attaques contre son successeur Macky Sall. L'ancien président de 91 ans a renoncé à son poste de député et sera remplacé par son suppléant sur la liste qu'il dirigeait et qui a obtenu 19 sur les 165 députés du Parlement. Selon des analystes, M. Wade cherchait à obtenir une majorité à l'Assemblée nationale pour l'opposition, afin de faire voter une amnistie pour son fils et ancien ministre Karim, condamné en 2015 à 6 ans de prison pour enrichissement illicite, ce qui lui permettrait de se présenter à la présidentielle de 2019. Gracié en juin 2016 par le président Macky Sall, Karim Wade réside depuis lors à l'étranger et son éligibilité pour le scrutin de 2019 fait l'objet de débats au Sénégal. Un autre absent de marque de la rentrée parlementaire de jeudi sera le maire de la capitale, Khalifa Sall, en prison pour détournement de fonds présumés depuis plus de 6 mois.
Abdourahmane Dia, la France a appelé le président tchadien Idriss Déby Itno à annoncer prochainement un calendrier pour les élections législatives repoussées sine die en février dernier. Monsieur Déby a obtenu à Paris un large soutien des bailleurs internationaux. La France lui a apporté une contribution de 223 millions d'euros pour la période 2017-2021. Paris entend soutenir le Tchad dans sa volonté de mener les réformes structurelles nécessaires pour assurer un développement durable et inclusif au bénéfice de la population. L'ONG française Action Santé Mondiale a dénoncé le fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique de 1,8 milliard d'euros, lancé en décembre 2015 pour endiguer l'afflux de migrants en Europe. Ce fonds met en danger l'objectif à long terme de lutte contre la pauvreté sur le continent, a-t-elle ajouté. Cette ONG a affirmé que des enquêtes menées au Sénégal et au Niger montraient que cet instrument a surtout été conçu pour répondre à l'urgence politique en Europe, plutôt qu'aux impératifs de développement dans les pays partenaires. Nouvelle attaque meurtrière en Somalie. Au moins 16 personnes ont été tuées après une attaque des combattants d'Al-Shabaab contre la ville de Beled Aou. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'attaque a commencé à l'aube. Les combattants Shabab ont pris d'assaut à 3 endroits différents la ville de Beled Aou, située sur la frontière Kenya-Somalie. La première attaque a visé une base militaire à environ 6 km de Beled Aou. Le maire de la localité, Mohamed Osman, a rapporté à VOA que les assaillants ont utilisé une voiture piégée. Ils ont par la suite entamé une série de tirs nourris, obligeant les soldats de la base à traverser la frontière pour s'abriter au Kenya. Après avoir anéanti la base militaire, les Shabab sont entrés dans la ville et ont attaqué le commissariat principal. Là, 2 civils ont été tués, selon Mohamed Osman. La troisième attaque a ciblé la mairie de Beled Aou. Le maire Mohamed Osman rapporte que les explosifs ont détonné dans l'immeuble qui abrite le bureau du maire, causant des dommages. Les soldats kényans ont enchaîné des tirs et la surveillance aérienne avec des hélicoptères pour empêcher les combattants Shabab de franchir la frontière. Hier, un attentat suicide dans le centre de la Somalie, ayant fait au moins 4 morts et 13 blessés, a été revendiqué par les insurgés islamistes Shabab.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ONU a réagi à l'annonce par l'administration Trump de mettre fin au DACA, le programme empêchant l'expulsion des jeunes immigrés sans papier. Zeid Raad al-Hussein, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, espère que le Congrès américain va trouver une solution permettant de sécuriser le statut des Dreamers.
Je suis préoccupé par la décision du gouvernement américain de mettre fin au DACA, le programme de protection des jeunes immigrés sans papiers, dans un délai de 6 mois, malgré son impact positif sur les vies de plus de 800 000 jeunes immigrés, ainsi que sur l'économie et la société américaine. J'espère que le Congrès va légiférer de manière à donner aux anciens bénéficiaires du DACA un statut légal durable.
Le commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein. Le pape François a également demandé à Donald Trump de permettre à des centaines de milliers de jeunes sans papier de rester aux États-Unis. Le souverain pontife a mis en question les qualités de défenseur de la famille avancées par le président américain. Arracher quelqu'un à sa famille n'apportait rien de bon ni pour les jeunes ni pour la famille, a-t-il estimé. Le Conseil de sécurité de l'ONU va voter ce soir sur de nouvelles sanctions drastiques contre la Corée du Nord après un nouvel essai nucléaire. Ce texte inclut un embargo pétrolier progressif. Washington a cependant dilué un projet de résolution beaucoup plus sévère à l'égard de Pyongyang. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, signée Dili Diko.
Importante saisie de diamants en Tanzanie. Selon l'AFP, le gouvernement a choisi de nationaliser ces diamants d'une valeur estimée à 29,5 millions de dollars après avoir accusé la compagnie britannique Petra Diamonds, propriétaire à 75% de la mine, d'en avoir sous-évalué la valeur. Les autorités tanzaniennes ont indiqué que les documents de Williamson Diamonds déclaraient une cargaison de 14,7 millions de dollars, alors que la valeur réelle des diamants, dont le poids aurait été délibérément sous-évalué, était de 29,5 millions de dollars. La Guinée signe un accord de 20 milliards de dollars avec la Chine. Selon Reuters, il s'agit d'un accord cadre qui établit l'octroi de concessions minières guinéennes à des entreprises chinoises en échange de financement d'infrastructures. Les fonds seront décaissés par tranches successives entre 2017 et 2036. L'accord prévoit plusieurs projets parmi lesquels une raffinerie d'alumine et deux mines de bauxite situées près de Bofa, une ville à l'ouest de la Guinée. Au Cameroun, le taux de croissance du PIB chute à 1,1% au premier trimestre 2017, rapporte l'agence Ecofin. Selon l'Institut national de la statistique, les faibles résultats du début de l'année 2017 attestent d'un ralentissement de l'économie camerounaise.
Et nous passons directement au sport avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On commence avec cette veillée d'armes avant la phase de poule de la Ligue des Champions qui démarre demain en Europe.
Dès mardi dans le groupe A, toujours leader de la Première Ligue en Angleterre, Manchester United accueille le FC Bâle, champion de Suisse depuis 8 ans. Une réception dont devront se méfier les Red Devils qui pourront compter sur Romelu Lukaku, auteur d'un but ce week-end lors du match nul de partout à Stoke City. Autre match de ce groupe A, Benfica qui accueille le CSKA Moscou. Dans le groupe B, le Paris Saint-Germain, après son recrutement pharaonique en déplacement chez le Celtic Glasgow, Neymar sera la vedette pour permettre à son nouveau club de remporter enfin la Ligue des Champions. Autre match, Bayern Munich contre Anderlecht. Dans le groupe C, le petit poussé Karabakh d'Azerbaïdjan se déplace à Chelsea. Chelsea qui va faire tourner son effectif. C'est ce qu'assure aujourd'hui son entraîneur Antonio Conte. Le meneur de jeu vedette Eden Hazard devrait notamment être sur le banc. Et surtout au stade olympique, l'AS Rome qui accueille l'Atlético Madrid. Le vice-champion d'Italie se méfiera d'Antoine Griezmann. Dans le groupe D, le feu d'artifice de cette première journée. Au Camp Nou, le Barça accueille la Juventus Turin. Les Blaugrana et leur nouvelle recrue Dembélé auront à cœur de montrer qu'ils sont toujours des grands d'Europe. En face, la Juventus Turin, finaliste malheureux de l'édition 2017, voudra montrer qu'elle a de l'ambition. En fin dernière rencontre, l'Olympiakos du Pirée contre le Sporting Portugal.
Et pour l'Afro Basket 2017, Nico, pas de match aujourd'hui avant les quarts de finale, n'est-ce pas?
Ils auront lieu jeudi à Tunis, Nigeria-Cameroun, Sénégal-Angola, Maroc-Égypte et Tunisie-RDC.
On va terminer avec le tennis. Avantage de Rafael Nadal pour la première place mondiale en fin de saison.
En remportant l'US Open hier, Rafael Nadal a conforté sa première place mondiale. Roger Federer aura bien du mal à détrôner l'Espagnol d'ici la fin de la saison. A noter qu'au Masters de Londres en novembre prochain, il pourrait y avoir plusieurs néophytes.
Et c'est tout pour les sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manelakiza, pour développer les dossiers du jour. Il y a 16 ans, le département américain de la Défense, le Pentagone, a fait l'objet d'un attentat terroriste. Le même jour, les agents d'Al-Qaïda ont également attaqué et détruit les tours jumelles du World Trade Center à New York. Une troisième attaque a été déjouée in extremis lorsqu'un groupe de passagers à bord d'un Boeing détourné vers Washington s'en est pris aux terroristes. L'avion s'est écrasé dans un champ en Pennsylvanie. Le bilan de ces attaques, plus de 2900 morts. Aujourd'hui, l'Amérique se souvient. Gabi Dorsil.
C'est à la Maison-Blanche que Donald Trump a invité la nation, pour la première fois en tant que président, à observer un moment de silence en mémoire de cet événement tragique, les attaques du 11 septembre 2001 à New York et Washington. Il était 8h40 du matin lorsque le premier appareil détourné par les terroristes d'Al-Qaïda s'est écrasé contre le World Trade Center à New York. 23 minutes plus tard, un deuxième avion frappait le bâtiment, symbole du capitalisme américain. Les deux tours se sont effondrées peu après à la stupéfaction de millions de téléspectateurs à travers le monde. En parlant des victimes, le président Trump a déclaré « Nous les pleurons, nous les honorons et nous nous engageons à ne jamais les oublier ». Au Pentagone, vous savez, j'ai toujours l'impression que ce sol est sacré. J'étais ici le 11 septembre, se souvient le journaliste Jamie McIntyre. Le 11 septembre 2001, sur les lieux de cette attaque non loin de Washington, il expliquait aux téléspectateurs ce qui venait de se produire. C'était un moment de choc pour la nation tout entière. Et, dit McIntyre, pour quelqu'un qui a vécu cet événement tragique, c'est un moment décisif. James Leshak, le président du fonds spécial créé pour commémorer l'événement, le Pentagon Memorial Fund, a perdu son jeune frère le 11 septembre 2001.
There were, 184
Il y a eu 184 morts au Pentagone ce jour-là, 125 dans l'immeuble et 59 dans l'avion, rappelle l'échec.
The benches are also arranged according to the flight path of the plane.
L'organisation mise sur pied par James Leshak explique ce que comporte le monument érigé au Pentagone. Rien n'a été oublié. L'âge des victimes. Comment elles ont été tuées. Des bancs sont arrangés selon la direction de l'avion. On peut voir exactement le point de l'impact.
The designers wanted a place like no other because 9/11 was like a day like no other.
Comme l'a dit le président américain Donald Trump, ce jour-là, le monde a changé. Mais nous avons aussi tous changé. Ces attaques qui avaient traumatisé le pays ont poussé les États-Unis à lancer une vaste offensive militaire en Afghanistan pour déloger le régime taliban au pouvoir qui protégeait les commanditaires des attentats. Cette guerre se poursuit 16 ans après.
Aux États-Unis, toujours le passage d'Irma, maintenant rétrogradé au rang de tempête tropicale et affaiblie, a provoqué quand même l'évacuation de millions de personnes et a privé des millions d'autres d'électricité en Floride, mais semble avoir été moins destructeur que ce qui était craint initialement. Pagasikura pour les détails.
Il y a eu plus de peur que de mal. Lundi matin, les résidents de la Floride se sont rendus compte avec un peu de soulagement des dégâts causés pendant la nuit par l'ouragan Irma. Écoutez Bob Lutz, un résident de Miami.
Vous savez, si cela avait été un ouragan de catégorie 4, tout le scénario ici aurait été différent. Nous n'aurions pas eu l'électricité. Nous avons juste rétabli l'électricité ce matin. Nous n'aurions pas eu le courant, peut-être des semaines. Nous n'aurions pas eu de prévision pendant au moins une semaine. Cela aurait été une scène complètement différente ici que ce que vous voyez maintenant s'il s'agissait d'un ouragan de catégorie 4 ou 5.
Bianca Machado, un autre résident de Miami, se félicite de n'avoir pas eu affaire à un ouragan plus puissant.
Ce n'était pas aussi mauvais que ce que nous pensions, parce que nous nous attendions à ce que l'œil du cyclone de catégorie 5 passe chez nous. Au moins, nous avons eu seulement la catégorie 3. Ce n'était pas si grave, mais c'est toujours mauvais.
Lors des cérémonies de commémoration du 11 septembre, le président Trump a une nouvelle fois promis tout le soutien du gouvernement fédéral aux régions affectées.
Before we begin, I'd like to send our nation's
avant de commencer, je voudrais envoyer nos prières à tous ceux qui sont sur le passage de l'ouragan Irma et à toute personne affectée par les ravages. Nous sommes en train de mobiliser nos moyens pour aider nos concitoyens en Floride, dans l'Alabama, en Géorgie, au Texas et en Louisiane.
Plus de 24 heures après le passage d'Irma, les stations-service restent fermées ou inondées en Floride. Trouver un bidon d'essence est une tâche difficile, même si la solidarité entre les habitants évacués joue à plein. Le passage d'Irma a provoqué l'évacuation de millions de personnes et a privé des millions d'autres d'électricité en Floride, où 3 personnes ont été tuées.
Retour sur le continent africain, en Côte d'Ivoire, Henriette Dagry Diabaté a arrêté hier le RDR, le Rassemblement des Républicains, le parti au pouvoir. Le président Ouattara est devenu président d'honneur. Pour comprendre l'enjeu de ce rebondissement à la tête du RDR, Eki Abadou a joint à Abidjan le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Bruno Koné.
Nous savons qu'il a pleine confiance en Madame Diabaté. Ça a été l'une de ses plus proches depuis le début de l'aventure du RDR. Il se connaissait bien avant même que le président ne soit Premier ministre. Ils s'apprécient mutuellement. Et nous avons également le plaisir de connaître un peu Madame Diabaté, bon, qui est une femme remarquable. C'est une brillante intellectuelle, c'est une historienne accomplie, reconnue. Elle a milité comme il le fallait, elle a toujours été très brave, elle a fait la prison pour le président de la République. Et j'allais dire, tous les ingrédients sont réunis pour que le président lui fasse cette offre, parce qu'il a confiance en elle et qu'elle est capable, sans aucun doute, d'assurer pleinement cette fonction-là.
Alors, vous parlez de tous les éléments, les ingrédients réunis. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a également insisté sur l'alliance avec le PDCI d'Henri Conan Bédié en vue de l'élection présidentielle de 2020. Que pensez-vous de ce choix pour le parti et pour la Côte d'Ivoire ?
Mais nous sommes nombreux à penser que cette alliance doit vivre, premièrement, que cette alliance doit même se renforcer. Le PDCI et le RDR ont à peu près la même vision. Ce sont des partis libéraux. Ce sont des partis qui défendent la mémoire du président Faure-Boigny. C'est deux partis oufouettistes. Donc, le parti, donc le RDR, est le plus proche aujourd'hui en Côte d'Ivoire et sans aucun doute le PDCI. Et chacun perçoit bien l'intérêt de cette alliance qui donne arithmétiquement la majorité au RHDP. Si cette alliance continue de se renforcer, sans aucun doute, le RHDP sera là encore longtemps et gouvernera comme il le fait aujourd'hui avec responsabilité dans l'intérêt des Ivoiriens et continuera à faire progresser notre pays en avant.
C'est très clair ce que vous nous expliquez. Ça balaie d'un revers de main les anciennes guerres entre les deux figures de ces partis.
Il n'y a jamais eu de guerre. Il peut y avoir des incompréhensions, surtout alimentées par l'entourage. On considère aujourd'hui que ces deux personnalités qui sont des hommes d'État ont compris que l'intérêt de la Côte d'Ivoire, l'intérêt des Ivoiriens, c'est qu'elles travaillent ensemble.
Comment expliquer l'absence de Guillaume Soro au Congrès ?
Je n'ai pas de commentaire. 100% des militants du RDR n'étaient pas au Congrès. Hein.
Bruno Koné, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement ivoirien.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
On va terminer avec le Sénégal avant de nous quitter. Au Sénégal, je vous le disais donc, la Société nationale d'électricité Sénélec a lancé une nouvelle filiale dénommée Aliki, à Akili plutôt, et spécialisée dans la maîtrise énergétique. Le projet Akili a d'abord été porté et développé par deux experts sénégalais, Amadou Ly et Samba Laobé Ndiaye, qui veulent mettre leurs compétences et savoir-faire au service du développement social et économique de leur pays, comme nous le dit Seydina Abagay.
Grâce à une solution informatique, Akili SA va aider les ménages et les entreprises à comprendre, maîtriser et réduire le montant de leurs factures d'électricité. Ceci dans le but de leur faire gagner en pouvoir d'achat et en compétitivité, comme l'indique Amadouli, directeur général de Akili.
Akili a vocation à aider à maîtriser les consommations d'énergie avec la finalité d'arriver à réduire sa facture d'électricité si possible. À minima, si on ne peut pas, au moins qu'on puisse éviter qu'elle n'augmente sans qu'on ne comprenne pourquoi elle augmente. Donc voilà un peu, vraiment il n'y a pas de limite, c'est tout le monde. On a dit tout à l'heure que c'est pour les gens qui avaient Internet, ça c'est la première version, mais nous sommes en train de travailler sur des versions où même ceux qui n'ont pas Internet chez eux, ils pourront également l'avoir.
Akili offre également de nombreuses perspectives à la Société nationale d'électricité, comme l'explique Mohamedou Makhtar Cissé, directeur général de Senelec.
On ne peut pas en permanence naturellement être dans une logique d'une baisse du prix de l'électricité. Il faudrait également envisager d'actionner un autre levier qui est celui de l'efficacité énergétique pour aider les Sénégalais dans leurs habitudes de consommation à maîtriser leur consommation, à réduire ses consommations et donc à diminuer la facture de l'électricité par eux-mêmes, par leur comportement.
Akili permettra à ses clients de suivre leur consommation de manière détaillée à tout instant depuis n'importe quel endroit du monde où ils auront accès à Internet. Un joyau technologique à la portée de toutes les bourses.
Le coût est variable parce qu'en vérité, ça dépend de combien on peut vous faire gagner. Celui qui paye 100 000 francs ou celui qui paye 1 million ou comme on l'a vu tout à l'heure, celui qui paye 50 millions de factures d'électricité, on lui installe le même système. Il est entendu qu'on ne peut pas facturer le même prix à tous ces gens-là. Donc aujourd'hui, le modèle, on peut dire que c'est à partir de 2 000 francs par mois. Mais 2 000 francs par mois jusqu'à une certaine limite dépendant de combien vous payez. On ne va pas exposer ici le détail de notre modèle économique. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un, par exemple, qui a une facture de 50 000 francs par mois, pour 2 000 francs par mois, il peut avoir accès à Akili sans aucun problème.
En devenant filiale de la Société nationale d'électricité du Sénégal, Akili permet à cette dernière d'entrer dans une nouvelle ère. Un apport apprécié à sa juste valeur par le directeur général de Senelec.
Donc c'est un outil éminemment révolutionnaire qui participe à la diversification de nos activités pour accroître la valeur ajoutée de ce que nous faisons parce que nous ne pouvons pas être que dans l'urgence de la production de la destruction de l'énergie. Si une société veut se développer, si une société veut avancer, si une société veut faire des pas de géant, forcément une industrie comme Senelec doit s'inscrire dans un schéma d'innovation.
En phase pilote depuis plusieurs mois, Akili est désormais disponible pour le grand public. Initialement lancée au Sénégal, cette nouvelle société technologique spécialisée dans la maîtrise énergétique espère bientôt se tourner vers le marché international. Seydina Abagui, à Dakar, pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'était Douceur, un morceau de Billy Abel pour vous accompagner chez vous dans votre soirée. C'est la fin de cette édition. Lionel Lounanilagaï m'a assuré la mise en onde. Zuber Altaïb, la console. À la présentation, Eric Manilakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Profitez de votre vie et vous accorde une seconde chance qui s'appelle demain. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. À bientôt.